Cette semaine, dans le balado, on cherche à offrir une vie normale à notre enfant, on aspire à devenir être une artiste et on doit sauver le monde d'une menace. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff.
Salut, salut. Mais est-ce qu'on sauve le monde d'une menace ou le other world d'une menace?
J'ai-tu dit le monde, je voulais dire sauver un monde.
Un monde.
Ouais, hein, je suis peut-être allé un peu trop vite. Oui, parce que ce n'est pas le nôtre, ce qui est assez rare habituellement dans ce genre de film-là. C'est notre monde qui est en danger, mais là, c'est un monde fantaisiste.
Le monde de la création.
Avant de parler des films de la semaine, grosse semaine pour les actualités parce qu'il y avait un événement aux États-Unis qui est une espèce de grande messe du cinéma.
Ouais, américain. À chaque année, le CinemaCon, donc le genre de congrès du cinéma américain. Alors, tous les propriétaires de salles et autres et de gros réseaux se rencontrent et là, les grosses bannières de majors font toutes leurs annonces de...
Ils leur font beaux yeux.
Ouais, des deux prochaines années à venir, font venir les vedettes, montrent des extraits exclusifs, des bandes-annonces. Fait qu'il y a quelques-unes de ces nouvelles-là et surtout des extraits des bandes-annonces qui sont déjà là, sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs nouvelles cette semaine et d'autres qu'on comprend qu'on va voir au fil de l'été avec la sortie, mettons, des gros films de l'été vont venir les bandes-annonces des gros films de dans 6 mois ou de l'été prochain.
Etc. Exact.
Fait que là, on ne pourra pas tout résumer, mais qu'est-ce que tu as noté de marquant?
Moi, je suis allé avec les plus grosses nouvelles côté de...
Toutes les nouvelles de Angel Studios, j'imagine. Oui. Les films Kato qui s'en viennent.
Du côté de Sony Pictures, c'était une grosse journée thématique Spider-Man, parce qu'on a révélé enfin le titre du prochain Spider-Man avec Tom Holland.
Oui, c'est quoi
donc? Dans l'univers de Marvel, c'est Brand New Day.
OK.
Un nouveau jour. Donc,
le premier, c'est Homecoming.
Homecoming, okay. Ouais.
Je me demandais s'il y avait un clin d'œil.
Ben, les trois premiers, c'était Home, alors que là, on est Brand New Day, alors que la nouvelle trilogie, ça va être Day, peut-être.
Puis c'est aussi le nom d'un album de Sting. Fait que je ne sais pas s'il y a un lien.
Peut-être. En fait, le lien, je pense, est avec le monde de la bande dessinée parce qu'il y a une série, un storyline de Spider-Man qui s'appelait Brand New Day, effectivement.
OK.
Qu'il y a quelques échos avec la situation de notre Peter Parker dans cette nouvelle trilogie-là où les gens ont oublié qui il est et tout ça.
Ils ont-tu oublié qui... On ne sait pas vraiment qui est Spider-Man. Ils savent que Spider-Man existe, mais ils ne savent pas que c'est Peter Parker. Puis personne ne sait c'est qui Peter Parker. Fait qu'il n'y a plus ses amis. Puis, mais Spider-Man, il existe encore.
Il existe toujours.
Okay.
Alors, ça sera à suivre en juillet 2026. Donc, l'an prochain, on sait que le film est en tournage. Sinon, pour les amateurs de la version animée avec Miles Morales, finalement, on a dévoilé, en tout cas, une date de sortie tentative parce que ça peut bouger.
C'est l'été suivant, c'est ça?
2027 même. Mais puis l'autre, c'était de 2022 ou 23?
Je crois que c'était 23.
23.
C'était supposé être 23 puis 24, genre, deux étés. Puis...
Fait que ça va faire quand même 4 ans.
Ouais.
C'est quand même
mais
long.
C'est ce qu'il y avait eu avant le premier aussi.
Ouais, sauf que là, le film nous laissait en suspens parce l'histoire n'était pas terminée.
C'est
ça. Fait que c'est ça que je trouve un peu délicat quand c'est...
Mais je crois que c'est un peu malgré eux. Là. Je pense c'était pas... malgré eux. C'est que ça se passait pas tant bien, je pense, dans la production. Là.
Ça a été assez chaotique.
On pressait le citron beaucoup, puis les gens étaient plutôt insatisfaits des horaires puis des exigences et tout.
Ouais. Fait que là, et les rumeurs disent qu'on a retravaillé plus de la moitié du film, plein de choses. Fait que, bref, ça sera... Donc, Spider-Man, Beyond the Spider-Verse.
Bon. J'espère que ça n'aura pas donné trop de burn-out du personnel. Là. Voilà.
On souhaite. Donc ça va être le mois de juin 2027. Toujours du côté de Sony, je pense que c'est eux qui avaient les annonces les plus intéressantes. Sam Mendes, qui nous avait donné American Beauty à une certaine époque, et qui s'était recyclé en réalisateur de James Bond, qui avait quand même donné Skyfall.
Oui, il en a fait juste un, il en a fait deux.
Il a fait Spectre aussi, tout à fait. Annoncé quand même un gros projet assez audacieux. C'est que les biopics.
Mais c'est
musiciens...
déjà annoncé, c'est juste qu'on a eu plus d'images puis d'affaires.
Je pense qu'on a eu la confirmation officielle. Je pense que, je sais pas si c'était signé.
OK, moi, il me semble qu'on parlait du casting puis tout, là, il y a quelques mois.
Ah non, mais le casting a été dénoncé là sur place. Fait que je pense que c'était juste les rumeurs qui disaient.
Peut-être.
Ouais,
puis ils ont juste confirmé toutes les rumeurs.
Peut-être. En tout cas, bref. Donc, il n'y aura pas un film sur les Beatles, mais bien 4 films, un sur chacun des membres. Et donc, l'idée, c'est de raconter l'histoire des Beatles, mais vue par chacun l'un de
membres. Oui, il va y avoir des événements récurrents, mais d'un point de vue différent. Là,
effectivement.
Peu,
Et ben, la partie audacieuse, ben, déjà quatre films, c'est quelque chose sur un sujet.
Parlons-en à Kevin Costner.
Mais ils veulent les sortir le même mois.
Ouais, ça c'est stupide. Là. Ça va changer, c'est certain.
Mais écoute, c'est peut-être le pari fou que Sony a décidé
ben,
de
le problème, lancer. C'est que, tu sais...
Est-ce que les cinémas vont vouloir embarquer?
Ben, c'est ça parce que là, des exigences de cinéma, souvent, c'est ce genre de sortie, là, des majors, là, c'est comme au moins deux, voire quatre semaines plein écran.
Ouais.
Fait que là, en dedans d'un mois, t'as quatre de tes écrans qui sont paralysés par ça. Puis là, il y a plusieurs cinémas qui ont quatre ou cinq écrans, puis tu sais, qui n'ont pas tous la même taille là, d'assistance. Fait que ça fait aucun sens. Les gens vont pas au cinéma à ce point-là. Je pense qu'il va falloir qu'ils se révisent, puis... Moi, j'irais un par saison. Là,
ça serait sur une la logique, année, là, effectivement.
Ça serait mieux financièrement, je pense, pour eux aussi, là, de plus travailler ça. Ouais.
Donc, à voir si ça sera le cas. Mais là, on parle quand même de 2028, donc ça a le temps de beaucoup changer. Mais effectivement, nos quatre Beatles. Alors, les comédiens, c'est Paul Mescal qui va jouer Paul.
Mm-hmm.
Harris Dickinson qui va jouer John. Joseph Quinn va jouer George. Alors, ouais. Sam est allé piger dans Gladiator 2 avec Paul Mescal et Joseph Quinn. Et Barry Keoghan va jouer Ringo, le mal-aimé. Ouais. Alors, pour les fans des Beatles, ce sera à voir. Mais.
Je suis fan de projets audacieux aussi.
Ouais, mais tu sais, je pense qu'honnêtement, dans les mains de Sam Mendes, ça va être quelque chose de qualité. Là. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Fait que. Curieux de voir ça. Du côté de Lionsgate, rapidement, ben pour les amateurs de John Wick, vous allez être servi d'une double dose de John Wick parce qu'on a annoncé qu'il y aura bel et bien un John Wick numéro 5 avec Keanu Reeves, mais on n'a pas annoncé si le film se déroulerait bien après le 4.
On est où?
Où on est où dans la timeline. Donc, ça, évidemment, ça va garder secret probablement jusqu'à à la toute fin, jusqu'à temps qu'on dévoile une des bandes-annonces. Pour les fans de Hunger Games, on sait qu'il y a un nouveau roman, un cinquième roman qui vient de paraître, si vous ne le saviez pas, tout récemment par Susan Collins, qui raconte les premiers jeux de Haymitch.
OK.
Personnage de Woody Harrelson dans les films originaux.
Fait après la balade du Songbird and Snake, avant le premier de 4.
Effectivement. Fait que c'est The Sunrise of the Reaping. Le tournage devrait s'amorcer cet été pour une sortie en 2026.
Est-ce qu'on savait qui joue le jeune Haywitch?
Pas annoncé encore. Secret. Ouais, tout à fait. Fait que peut-être qu'ils l'ont même pas encore casté. Fait que voilà. Sinon, pour les autres, comme tu l'as dit, on a présenté beaucoup plus de bandes-annonces, mais il n'y a plus de grandes révélations chez les autres studios. Puis je pense que c'est Disney, c'est aujourd'hui, je me trompe pas.
C'est déjà passé, un peu les mêmes affaires. Là. Puis du Marvel, puis on a fait venir le casting de Thunderbolts, là, ça sort. Là,
ah, puis c'est vrai, ils ont montré une partie du nouveau Avatar, d'ailleurs, qui apparemment...
Oui, c'est ça, Zoé Saldana était venue en parler. Mais je pense que c'est même pas des... Je pense qu'ils ont montré des stills, là, des images tirées du film, mais je ne suis même pas certain que c'est des images animées. Là, c'est des screenshots. Là. Mais peu importe. Peut-être qu'il y a des images animées, quoi que ça sort en décembre.
Ouais.
Normalement, j'espère qu'ils ont commencé à renderer film. Qui sont pas mal picture lock. Là.
Ah oui, non, j'allais dire, du côté de Universal, évidemment, on a présenté la nouvelle bande-annonce de The Wicked for Good.
Ouais, OK.
Et on a confirmé certaines rumeurs qui circulaient, à savoir qu'on a compris finalement pourquoi il y a deux films. Parce que je pense que ça va chevaucher un peu de Wizard of Oz.
OK.
Donc, on devrait voir Dorothy et compagnie dans le prochain film. Parce qu'il y avait une remarque qu'une Dorothy avait été choisie au niveau du casting. Une comédienne devait l'incarner. Fait que je pense qu'ils vont se rendre jusqu'à l'arrivée de Dorothy dans le monde d'Oz. Bref, ça va être à suivre. Puis, parlant de Wizard of Oz... Ça peut être quand même assez excitant, parce que The Sphere à Las Vegas, ce méga-dôme qui contient un écran, écoute, c'est 500 pieds de haut, en 16K, va présenter le film de Wizard of Oz dans une expérience immersive. Alors, ils vont retravailler le film à partir du 28 août. Donc, ça laisse la possibilité d'avoir peut-être un Avatar, ou d'avoir un Star Wars, ou d'avoir un Top Gun Maverick sur la sphère. Ça devrait être assez mongol. Fait que j'ai bien hâte de voir l'expérience que ça va donner.
Je sais pas si c'est trop, en fait. Comme la mode des ScreenX, là. Certaines salles ont ça avec des écrans sur le côté.
Je serais curieux de tester.
Je pense qu'on aime ou on haït.
Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, là, il faut le voir comme une expérience différente.
Fait oui,
c'est pour ça qu'il parle d'expérience immersive.
Ouais, puis de revoir des classiques du cinéma. Ouais. Je pense pas que la nouveauté serait là, puis qu'à chaque semaine, il changerait de film. Là,
ça non, 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 c'est ça. Je pensais
que tu as dit le 28 août, mais on te dit ça serait présenté combien de temps?
Je sais pas. Ils ont
6 mois.
Ouais, ça, c'est pas dit. Je pense que peut-être le succès va déterminer la chose, là, si finalement ça intéresse personne.
Sûrement au moins un mois, j'imagine.
Bon, oui, j'ai l'impression qu'ils vont lui donner la chance, mais ça sera pas projeté en permanence parce qu'à travers saison aussi, leurs autres projections, il y a comme un film, des spectacles aussi, souvent des artistes en résidence, dont U2, qui ont été là à l'ouverture du Sphere pendant quelques mois. Mais moi, être allé à Las Vegas, j'irais. Je serais curieux je vais y aller pour tester le Sphere que j'ai jamais fait. Mais Wizard of Oz.
Ça doit être dispendieux quand même.
Non, c'est quand même assez.
Pour un film de même, c'est un billet à 50$, comme, ou...
Pour l'autre film là, qui était. C'était Darren Aronofsky qui avait tourné, là, c'est son espèce de documentaire sur le monde. Je pense que ça tourne aux alentours de 60-70 US. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, pour Las Vegas, pour ça.
Musée, machin.
Là, ouais, ça a de l'allure. Fait que, est-ce que lui, vu que c'est plus long, ça va être un peu plus cher? Ça va être déterminé, mais c'est quand même un dôme, un aréna de 17 600 personnes. Fait que,
genre le centre vidéo.
Ça contient, ça contient. C'est fou. Sinon, triste nouvelle, quand même le décès d'une figure populaire. Je dirais pas un acteur légendaire, mais qui a quand même marqué ma génération, peut-être la tienne aussi, Val Kilmer.
Oui, c'est vrai.
Décédé à 65 ans. Là. Finalement, d'une pneumonie, mais on sait qu'il était affligé d'un cancer de la gorge depuis plusieurs années, depuis une quinzaine d'années. Donc, finalement, décédé. Pour moi, ça demeure, je sais pour beaucoup, c'est... Iceman dans Top Gun, évidemment le rival de Tom Cruise. Moi, je pense que j'ai un petit faible pour son personnage de Nick Rivers dans la comédie Top Secret.
Je savais pas si tu allais me dire Simon dans The Saint.
Ben, que j'ai beaucoup aimé. Moi, en fait, je pense que c'est peut-être son dernier bon film qu'il a fait. J'ai pas revu sa filmographie, mais il me semble, dans les années 2000. C'était...
Et il y allait un petit peu plus mafieux. Qu'est-ce qu'est ce Bang Bang? C'est bon, ça? Shane Black. Sinon, je suis plus trop...
Non, c'est ça. Fait que je pense que The Saint est peut-être son dernier plus intéressant. Pour d'autres, évidemment, c'est Jim Morrison dans The Doors. Il faut lui donner quand même qu'il était incroyable dans ce rôle-là. Donc, mais j'y allais justement avec ce lien-là. Pourquoi je parlais de Top Secret? Parce qu'on a une nouvelle bande-annonce qui rend hommage au créateur de Top Secret et de cet humour absurde-là, les frères Zucker et Jim Abrams, avec un remake qui... Ben, remake suite, en fait, hein, parce que...
Reboot.
Qui détonne peut-être certains. On verra bien.
Ouais, The Naked Gun, l'agent fait la farce, revient.
Ouais.
On l'avait annoncé avec Liam Neeson, qui joue le fils de Frank...
Drebin,
donc le personnage de...
Leslie Nielsen.
Leslie Nielsen, ouais, c'est pas malin du tout pour Liam Neeson, Leslie Nielsen. Petite bande-annonce teaser, une minute, très surprenante, réalisée par Akiva Schaffer, un nom peut-être moins connu, mais une face plus connue. C'est un des membres du trio de Lonely Island.
Ouais.
Il va y avoir aussi Pamela Anderson, qu'on voit pas dans le teaser, mais au générique. Paul Walter Hauser, qui est un nom moins connu, mais une face dans I, Tonya, Cruella, je le trouve très drôle, qui va jouer son acolyte, donc qui joue chacun le fils du personnage
des
précédents films.
Parce qu'il y a quand même un gag assez,
Allez
assez audacieux à la fin.
Là, le début est très, justement, un peu... absurde et tout, là, on l'utilise comme si c'était déguisé dans une toute petite fille, pis des choses comme ça. Gag weird, par contre, qui mène à genre tuer quelqu'un qui a un bâton de suçon, que j'ai comme, oh, ça, c'est pas le ton habituel, mais comme tu me disais, c'est peut-être un clin d'œil plus à ce que Liam Neeson a fait avec les Taken, fait que je pense pas nécessairement parce qu'il y a ce gag-là dans une bande-annonce d'une minute que ça va être le ton de tout
le
film.
On n'a pas le contexte de
poignarder du monde qui a du sang en numérique qui revole. Là. Ça, c'est comme, mais je pense pas qu'il garderait ça parce que ça ferait un film R-rated à long. Ouais. Je crois pas que c'est ce qu'il souhaite avoir. Le solide gag là, sur tous les policiers qui pleurent leur père puis qui travaillent pour eux, plein de daddy issues et le clin d'œil à O.J. Simpson. Là, fait que... là, justement, on se garde une petite réserve et tout. Fait que c'est bon espoir. Puis c'est la jungle, en plus, YouTube, là, tous les commentaires. Mais tout le monde était comme, oh, j'étais sceptique. Ben, s'ils vont dans ce ton-là, qui rappelle les Family Guy et toute l'œuvre de Seth MacFarlane, qui est le producteur.
Effectivement. Fait qu'on sait qu'il est capable d'en donner, qu'il n'a pas peur de l'humour malaisant. Donc, on verra bien. Moi, c'est juste le casting de Neeson, honnêtement. J'ai hâte de voir. Il va peut-être me surprendre, mais surtout en plus qu'il joue le fils de Leslie Nielsen. Mm-hmm. Ça me happe encore plus. Mais je vais y aller avec une bonne foi, puis j'espère que ça sera une réussite.
1er août pour ce film-là. Ouais. Dans les annonces, on a vu la nouvelle bande-annonce de Megan 2.0. Je pense qu'il y avait eu un petit teaser, des petites affaires quelques semaines, mais là, on comprend un peu plus ce qui va se passer. Ça sort le 27 juin et ça va être très action, finalement.
Ouais. Robot contre robot.
Exactement. Fait que
comme Terminator 2, finalement, un peu.
Ouais, genre, mais moins, un peu plus comique que dramatique, je crois, là. Fait que c'est ça, on a contrôlé l'intelligence artificielle de Megan en la mettant dans un petit robot inoffensif, mais là, la technologie a été volée, il y a une nouvelle robette super méchante. Fait que Megan a
plus
dit...
Plus adulte derrière
c'est son
ça. Look aussi.
Megan dit, regarde, réactive-moi, donne-moi un super suit, puis je vais aller péter la gueule, puis je te jure qu'après ça, je vais me calmer. Fait que bon, cette espèce de confiance-là. Fait qu'on quitte l'espèce de thriller d'horreur pour vraiment embrasser ce film d'action, des technologies qui s'affrontent, et avec des coups de poing puis des savates dansées, comme, parce qu'on se souvient de sa fameuse chorégraphie et tout.
Et beaucoup de répliques de one-liner.
Ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'il manque juste Jason Statham dans le film, finalement. Là.
fait que je pense qu'on se cache
pas.
Pas qu'on...
C'est comme un public différent.
Ouais, je pense
c'est
qu'on va chercher
que...
les jeunes, là, j'ai l'impression.
Oui, puis Blumhouse a pas trempé dans l'action
pas
comme
beaucoup,
ça jusqu'à présent.
Non.
Fait que moi, je suis curieux. Je suis pas certain de la qualité que ça va donner. Au mieux, ça va être très sympathique. Mais je souligne l'audace de changer de ton, d'aller... puis tu sais, c'est Gerard Johnstone, Gemstone, je pense, le réalisateur. C'est le réalisateur du premier, puis c'est lui qui a écrit cette suite-là. Alors que la première est écrite par Juan, je pense, puis quelqu'un d'autre. Là. Fait que ça doit être un amoureux des films d'action, un peu comme moi, et ce genre de truc. Fait qu'il a dû lui rendre hommage à sa façon, à toutes ses suites où il faut comme... renchérir. On n'a pas le choix de renchérir. Il faut en donner plus, en montrer plus. T'sais, dans le premier, il y avait le fameux kill où elle dansait dans le couloir, puis elle allait chercher la lame de la trancheuse, puis elle a l'air d'y redonner un peu, comme si c'était son arme de prédilection. Fait que, ça fait un peu même le Alita, là, Battle Angel.
Là, ouais, c'est vrai, ouais, tout à fait. Ouais. Donc, à suivre et à voir quelle sera la prochaine trend de TikTok que le film déclenche.
Ouais, c'est sûr qu'on là, on va essayer. Puis là, des fois, trop forcé, c'est plus naturel. Là, mais bon. Et petite nouvelle rapide, il y a eu une nouvelle bande-annonce pour Bring Her Back des frères Philippou, qui en dit un peu plus sur ce film qui semble très weird. Mais bonne nouvelle, il va y avoir une version française finalement du film, ce qui n'était pas annoncé au départ. Peut-être que ça paraît évident, mais ça, ils viennent juste de l'annoncer et on est à... 6 semaines de la sortie du film. Fait que tant mieux, ça va rayonner un peu plus large, comme l'avait été Parle-moi, c'était ça? Talk to me, l'heure précédente. Là, ça va s'appeler Reviens-moi, en fait. Fait que,
bien de voir ça.
On joue avec l'au-delà beaucoup et ramener les morts à la vie.
Donc, allons-y avec les sorties de la semaine. Ouais. Un film quand même, je pense, attendu par le public québécois, si on en juge déjà les gens présents dans les salles ce matin, pour le film de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Ken Scott.
Oui, coproduction France-Québec. On est dans les années 60. Esther met au monde son genre de 5-6e enfant. Je ne sais pas, une famille assez nombreuse. Ouais. Le petit Roland. Et Roland naît avec un handicap physique, ce qu'il appelle un pied beau, là, qui a comme le pied croche. Donc, on lui dit, il ne pourra jamais marcher parce qu'il ne pourra jamais se tenir sur son pied. Puis elle refuse ça. Puis elle dit, non, il doit avoir un traitement et je vais trouver. Et c'est comme vraiment un exemple de ce qu'on appelle une mère courage là, qui, contre vents et marées, va se battre. Puis même, elle n'envoie pas son enfant à l'école parce qu'elle dit, quand il va aller à l'école, il va y aller à pied en marchant, en se tenant droit, bien fier. Et fait qu'on va voir tout cette espèce de sauvetage inusité qui est à peu près la première moitié du film. Et la référence au titre aussi de Sylvie Vartan, qui est une chanteuse pop française très, très forte dans les années 60. Et le jeune Roland, ben, il est comme un peu ben, en amour, puis hypnotisé, puis il adore cette chanteuse-là. Fait que comme il doit être alité extrêmement longtemps, ben, toute sa famille le nourrit de toutes les revues à potins, les apparences télé, les présences télévisuelles, toutes ces affaires-là. Fait qu'il ne fait que consommer du Sylvie Vartan. Il va même apprendre à écrire puis à lire grâce aux paroles, etc. Mm-hmm. Fait que là, et on se transpose plus tard, où là, le jeune Roland Pérez est joué par Jonathan Cohen. Et là, dans sa vie adulte, alors qu'il est en droit, et il termine son, ben, son barreau, je sais pas comment on appelle ça en France, il a de la misère à rompre les liens avec sa mère, parce que là, ils ont été tellement proches, tellement soudés à le protéger, puis à vouloir qu'il puisse juste voler lorsqu'il sera prêt, que là, c'est dur de laisser aller, de laisser vivre sa propre vie. Et lui-même va se retrouver aussi à devenir l'avocat de Sylvie Vartan, ce qui a un gros lien personnel pour lui dans la vie. C'est une comédie dramatique inspirée du roman autobiographique de Roland Pérez. Fait que c'est pas une histoire sortie de nulle part, c'est l'histoire vraie, ou du moins romancée, de cette personnalité publique maintenant française.
En France, elle s'est connue, effectivement, parce qu'il avait été appelé à faire beaucoup de chroniques sur le côté de la pratique du droit dans les émissions de radio, jusqu'à avoir finalement sa propre émission à lui. Fait que nous, au Québec, c'est Pierre moins connu, mais ouais, c'est un peu genre. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout son histoire qui est vraiment singulière. Là. C'est assez hallucinant. Quand même, une belle histoire, mais quand même empreinte d'une certaine tristesse aussi, sans aller trop dans les détails quand mm-hmm. même. Il a quand même vécu des drames aussi. Donc, de sortir résilient de tout ça, c'est incroyable. Mais je pense que tu l'as dit, la force, c'est Ken Scott, évidemment, qui on ne présente plus aussi au Québec, scénariste de La Grande Séduction, devenu réalisateur avec Starbuck, et puis récemment, c'était Au revoir...
Le
Bonheur. Donc, quand même, un des cinéastes chouchous du Québec.
Un maître comme ça de cette balance entre la comédie, le drame, la fameuse comédie dramatique, comme on dit.
Ben, il fait des films très humains, je pense, auxquels on peut se rattacher, effectivement.
C'est Leila Bekhti qui joue le rôle de la mère, qu'on a vu récemment dans Maria Montessori, justement, là, la nouvelle femme. Et elle était dans Le Grand Bain aussi, elle faisait la coach en chaise roulante. C'est drôle. Et elle est excellente.
Oui.
Puis elle est là tout le temps, là, du maquillage quand elle est plus vieille, fait qu'elle est vraiment là du début à la fin du film.
Ah, c'est une force de nature sur le grand écran, là, elle est quelque chose.
Ouais, puis je pense que c'est le genre de rôle qui fait qu'on va la revoir encore plus, et en France et sur les films qui vont être acquis ici. C'est ça, puis elle est très colorée aussi. C'est pas juste quelqu'un qui défend son fils, tu vois qu'elle a du bagou, elle a pas la langue dans sa poche, fait que tous ceux qui disent non, me dire oui, là, exactement.
Il est capable de leur répondre.
Il est capable de supplier, capable. Ça fait un peu, c'est un cliché, parce qu'eux sont plus arabes, je pense, d'origine marocaine.
Juifs, sont juifs.
OK. Ouais. Ça me rappelait justement les mamas italiennes, des fois, qu'on voit dans les films. Je ne vais pas insulter personne en disant ça, là, mais...
Des femmes de caractère.
Ben c'est ça qu'au final, même si c'est une époque où c'est les maris qui, je sais pas, qui vont voter, qui travaillent, puis qui, disons, parlent ou prennent les décisions, tu comprends que c'est plus la mère en arrière qui décide. Ouais. C'est pour ça que je disais italien, ça me rappelait Le Parrain qu'on a écouté récemment, des choses comme ça.
Je dirais même ici au Québec aussi, tu sais, c'était très matriarcal aussi quand même comme société.
C'est vrai, c'est ça. Même si c'est juste les hommes qui avaient un peu en public le droit de parole d'un foyer. C'est
les femmes qui menaient souvent.
Ben c'est pas pour rien que l'espèce d'adage de « faut que je check avec ma femme avant de commettre sur quoi ».
Je pense que la révélation, même si ce n'est pas une, c'est Jonathan Cohen quand même dans un rôle un peu contre-emploi, qui est beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus... attendrissant, ou en tout cas...
Oui, il est moins dans, justement, le punch puis le gag, comme dans les Astérix, ou même Une année difficile, il était sur la ligne aussi. Dali, il était très absurde et tout. Là.
Fait que vous voulez juste passer un très bon moment, un film très solide de Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan.
Je crois que ça va vraiment trouver son public au Québec.
Déjà qu'en France, c'est un énorme succès.
C'est fou, il a battu Blanche-Neige, qui est un peu en déroute, mais quand même, des fois, des majors, même si ça fait pas aussi fort que prévu, ça reste quand même numéro un.
Donc, battre la machine Disney pour quand même un film, là, on parle pas non plus, c'est pas un Astérix, c'est un Trois Mousquetaires.
C'est
quand même tout un exploit. Puis d'ailleurs, on a eu l'occasion, nous, de s'entretenir avec Ken Scott, anecdote dans le balado.
Oui, ben l'épisode est déjà en ligne, peut-être l'avez-vous vu. Fait qu'on discute du processus du film, de comment en fait il travaille en général à l'international et tout. Fait que où il est rendu depuis toutes ces années, si on veut, dans sa carrière, mais aussi du travail sur le film. Puis, fait qu'il n'y a pas de spoiler au film. Là. Vous pouvez l'écouter avant si ça vous donne envie d'aller voir le film ou en vous rendant au cinéma.
Donc, restons du côté encore plus québécois, mais québécois à l'international. c'est vraiment le mix cette semaine avec Olaf Rida de André Cadé et Karine Vézina.
Oui, première réalisation pour Karine Vézina. André Cadé, on lui doit aussi Dounia et la princesse d'Alep, qui je crois était aussi en co-réalisation, mais pas avec Karine, avec quelqu'un d'autre. C'est la jeunesse de Frida Kahlo du cinéma animé à l'ancienne un peu. Là. C'est sur ça des technologies, je pense pas qu'il dessine à la main, mais c'est une animation 2D. C'est Frida, elle a à peu près 6 ans, et là, elle apprend qu'elle a la poliomyélite. Donc la polio, elle a cause des problèmes avec ses jambes et tout. Puis elle a vraiment peur de mourir de ça, ce qui arrivait fréquemment à l'époque. Fait qu'elle va se réfugier dans le dessin et la peinture et dans son imaginaire. Puis éventuellement aussi, quand elle va s'en remettre, elle va participer à la grande course de patins à roues alignées. Ben, en fait, son père roues alignées, patins à roues, du village pour essayer de faire taire ses détracteurs qui l'écœurent avec sa petite jambe et ces choses-là. Une espèce de conte familial, mais un peu biographique aussi, donc sur la jeunesse de Frida, qu'on utilise comme moteur pour, nous la présenter, mais aussi défendre son œuvre un peu féministe tranquillement, là, qui peut-être commençait parce qu'elle se faisait beaucoup dire « les filles peuvent pas, les gars peuvent », fait que c'est cette différence-là. Puis sur l'acceptation de soi, sur comme briser les murs, des limites, si on veut, des limitations. Et on aborde aussi les thèmes là, d'harcèlement scolaire, justement de ses rêves brisés, de la peur de la mort qu'elle a peur de mourir, la mort autour d'elle également.
Donc, pour les gens de Québec, c'est une fierté parce que c'est une production d'un studio de chez nous, oui. Du Co-Animation. Donc, il faut quand même le souligner. Tout ne se fait pas à Montréal, nécessairement.
Non, voilà.
Et puis, écoute, c'est un film visuellement assez spectaculaire. C'est très coloré, très vivant, inspiré des livres de Sophie Fauché. Donc, je m'appelle Frida Kahlo. D'ailleurs, Sophie, qui est au générique, elle joue la mère de Frida.
La voix de
et
la
je dois avouer que c'est un prix comme un 15-20 minutes à mon cerveau de m'ajouter parce que Sophie, pour les un peu plus vieux comme moi qui ont des enfants dans la vingtaine, c'est elle qui faisait la narration dans les fameux cailloux.
Ah, OK.
Alors, je m'attendais toujours à voir cailloux apparaître à un moment
prendre
donné.
Prendre son bain.
Parce que, puis,
péter sa coche.
Fait que
partager.
C'était très drôle parce que ça change pas d'accent ni rien d'intonation. Là, fait que c'est vraiment la même voix que dans les dessins animés de cailloux. Ceci dit, dans mon entourage, on a une amie qui est d'origine mexicaine, qui a vu le film et qui a vraiment apprécié tous les petits détails. Elle dit vraiment qu'il y a un beau travail à ce niveau-là. Okay. Tant dans la vaisselle que dans les mots utilisés, parce que des fois, ça va par région aussi, des expressions, tout ça.
Oui, parce que des petits, tu sais, c'est production franco-québécoise, fait que c'est en français, mais des fois, ils utilisent comme les petites expressions espagnoles à gauche puis à droite. Là.
Fait qu'elle disait qu'il y avait un beau travail à ce
niveau-là. D'où le titre Olaf Rida également.
Ouais. Et moi, je dois avouer que je n'ai peut-être pas nécessairement le public cible pour ça, mais j'ai bien apprécié. Mais c'est surtout, ça m'a fait quand même connaître un peu plus ce Frida Kahlo, que tu sais, je connais de nom comme ça, mais je ne connaissais pas vraiment sa vie. Je comprends finalement pourquoi finalement elle est devenue obsédée avec la mort et tout ça, parce qu'au-delà de sa maladie dans la jeunesse, elle a aussi un grave accident d'autobus jeune adulte où elle a pratiquement tout le corps brisé, restée pendant plusieurs mois à l'hôpital et tout ça. Donc, c'est un drôle de destin quand même.
Oui, c'est ça. Puis il me semble que quand elle est morte, éventuellement, c'était un peu aussi des complications de tout ça.
Ça se peut, oui. Oui, parce qu'elle est décédée quand même jeune, dans la fin quarantaine ou mi-quarantaine.
Oui, c'est ça. C'est pas rendu à 50, je pense pas. Puis, mais je crois que c'est qu'à Mané était maganée de tout ça. Là. Ça commençait à dépérir suite à ces accidents-là et tout. Là.
Donc, amener avec vos enfants, peut-être pas les plus jeunes, là. T'sais, moi, je mettrais peut-être comme un... C'est pour... Réellement, qui s'y intéresse, peut-être comme un 8-9 ans, là, un peu plus. Là. Je pense que des 5-6 ans vont peut-être trouver ça un peu long, moins intéressant comme sujet, là, bien que.
Peut-être.
Il y a rien d'inoffensant.
Un petit chihuahua.
Ouais. Mais à découvrir, ne serait-ce que justement pour la beauté du film, la musique et tout le côté artistique. Allons complètement dans un autre univers avec, je pense, le film qui est le plus attendu nécessairement par le grand public, évidemment. C'est A Minecraft Movie de Jared S.
Oui, un film Minecraft au Québec. Quand même une nomenclature unique. Je ne sais pas si c'est en référence au jeu. Ben, le jeu s'appelle juste Minecraft, mais je ne sais pas s'il l'appelle un Minecraft game.
En fait, l'explication vient de Marcus, je pense, c'est Peterson, qui
le
est le créateur.
Ouais, c'est un jeu suédois.
Effectivement. Donc, il avait dit, en fait, il ne voulait pas donner un titre parce que la beauté de Minecraft, tout le monde peut créer ses propres histoires. Alors, ça peut être juste une histoire parmi tant d'autres. Alors, c'est pour ça que
mais
c'est un Minecraft movie.
Le fait que ce soit pas comme Minecraft the movie, tu sais, c'était très ça d'habitude, là, Minecraft, virgule, le film ou quelque chose de même. Mais un film Minecraft, bref.
Ouais.
Avec, au générique, Sebastian Hansen, qui va jouer le jeune adolescent, là, qui n'est pas encore connu. Jack Black, Jason Momoa, surtout. Jennifer Coolidge aussi, en rôle sympathique. Henry, donc le personnage de Hansen, le jeune adolescent, est projeté dans un monde virtuel. Ben écoute, je ne vais pas résumer dans l'ordre exactement, mais en gros, c'est qu'il va se retrouver projeté dans cet overworld-là, donc dans le monde de Minecraft. Fait que sinon, c'est des humains normaux qui vivent qui font des podcasts comme nous. Et il va se retrouver dans ce monde-là, entraîner avec lui sa sœur, une agente d'immeuble et le personnage de Momoa qui est un ancien champion de jeux vidéo d'arcade qui est encore pogné dans les stéréotypes du heavy metal des années 80 qui n'a jamais vieilli vraiment puis que son magasin de jeux vidéo dans le petit village mais qui est sur le bord de la faillite puis qui a beaucoup de problèmes en tant que solitaire fauché. Et fait qu'il va entraîner ces gens-là avec lui dans ce monde-là. Il va être un peu coincé là et là faire la rencontre du personnage joué par Jack Black, de Steve, qui lui avait trouvé l'accès pour le monde de Minecraft. Et
qui était demeuré.
Oui, qui était demeuré là, coincé, prisonnier, en fait, un peu à la Jumanji, si on veut. Et ensemble vont travailler pour pouvoir retourner dans le monde réel, mais aussi empêcher là, les méchants cochons là, de régner, de mettre leur règne de terreur et de s'emparer de ce fameux cristal-là. Fait que, aventure classique de quête d'objets et de stopper les méchants avant de trouver une solution.
Tout à fait. Alors, tu as mentionné adaptation d'un jeu créé par un studio suédois, Mojang, lancé en 2011 quand même, qui est une des plateformes en jeu les plus populaires. Quand même, rapidement, le film, on a voulu transposer ça au cinéma. Première version avait été annoncée en 2014.
Ah ouais,
même,
OK.
Avec Sean Levy comme réalisateur.
Ouais, ouais, c'était à l'époque où il faisait des nuits au musée.
Ben, effectivement.
Tout.
Donc, finalement... Tout ça a eu plusieurs problèmes en cours de route.
Qui
comme
avait-tu
si
Ryan Reynolds au générique?
Non, il n'y avait personne. Okay. Ils n'ont jamais annoncé de comédien. Okay. Juste changé d'équipe créative au fur du temps. Et puis, finalement, fun fact, Jack Black, au début, il devait faire qu'un caméo. Il devait faire un des petits cochons. Je pense que c'est le cochon qui va être un artiste.
Okay.
Qui est finalement joué par Kate McKinnon de Saturday Night Live. Saturday Night Live. Quand même très, très drôle. Jason Momoa était la première tête d'affiche associée au film. Donc,
est-ce que tu as dit Feu Saturday Night Live parce que ça n'existe plus?
Non, Feu, ben, je vais dire parce qu'elle n'est plus dans Saturday Night Live.
Okay.
Kate McKinnon. Donc, non, l'émission roule toujours
ouais,
très,
c'est
très
ça,
bien.
Okay,
mais qui était, moi, une comédienne que j'aime beaucoup. Puis dans Saturday Night Live, lorsqu'elle était là, je l'aimais énormément aussi. Donc, écoute, tu l'as dit, Minecraft, c'est ce que vous... What you see is what you get, là. On est vraiment dans une approche très à la Jumanji, justement. On a des humains pris dans ce monde-là de fantaisie.
Qui vont apprendre à découvrir les codes puis comment ça marche, là, parce que c'est un jeu où tu peux créer à l'infini... tout est carré, là, avec des blocs, etc. Là. Écoute,
on dirait que c'est le nouveau créneau de Jack Black, parce qu'après les Jumanji et avoir prêté sa voix au film de Super Mario, ben, on le retrouve cette
fois-ci. Il y a même Borderlands aussi.
Oui, c'est vrai, effectivement.
L'adaptation des jeux.
Et j'ai l'impression, comme dans Super Mario, parce qu'on sait que son petit numéro où il chantait une chanson est devenu viral, il avait été même en nomination aux Oscars, je pense. Ou en tout cas, je pense qu'il avait chanté...
C'était pas aux Oscars.
Au Golden Globes, peut-être.
Ouais, de quelque chose d'autre, mais ouais, pas aux Oscars.
Mais.
Beaches.
Ouais. En tout cas, sinon, c'est peut-être au Golden Globes, mais il me semble qu'il avait performé. Bref, fait qu'évidemment, il va chanter plus qu'une fois dans
des
Minecraft.
Des petits verres d'oreille. Ben, comme les gens ont. Ben, je sais pas, je suis peut-être le seul, là, mais des fois, on fait des. des petits verres d'oreilles ou des chansons, mais pour pas grand-chose. Genre, tu fais le lavage ou de quoi. Mm. Fait qu'il fait un peu pareil là-dedans, mais il y a une bonne instrumentation qui l'accompagne.
Et comme le dernier Fast and Furious, Jason Momoa s'amuse avec son image. J'ai l'impression qu'il veut déconstruire son Aquaman avec ce personnage un peu là, de sympathique loser qui est encore rattaché à son passé. Puis
C'est drôle parce que lui, son personnage d'Aquaman est plus sérieux, mais c'est un peu la démarche Chris Hemsworth, je trouve, aussi.
Ouais, là, ouais. On est quasiment du Thor Ragnarok, un peu, là. Un heureux imbécile.
Ouais, même Love and Thunder, encore plus. Là.
Ouais. C'est Love and Thunder, je le disais. Ouais,
J'ai déjà oublié. Mais l'autre d'avant, il avait commencé à être plus funné, puis à Love and Thunder, effectivement, tu comprenais pas comment il pouvait prendre des décisions quasiment, tellement il était nigo. Fait qu'il y a un peu ça. Et côté, il est costaud, mais c'est pas un combattant, c'est un gars de jeux vidéo et tout. Fait que là, ils vont tranquillement tous s'ouvrir, puis s'entraider, puis juste penser à eux-mêmes.
Il y a comme une petite sous-histoire, mais juste des petites scénettes avec Jennifer Coolidge, qui est redevenue à la mode beaucoup avec son personnage. C'est-tu dans White Lotus Succession, hein, je pense.
Ouais, je crois.
Mais qui est pour une génération, évidemment, Stifler's mom, mère de Stifler. Fait que je viens d'y penser.
C'est aussi dans Blonde Illégal, je pense.
Ouais, ça se peut. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit côté clin d'œil à American Pie, peut-être avec son personnage.
Ouais, elle est pas c'est pas la girl next door, c'est la mom next door, un peu. Là. L'origine des MILF et tout. Fait que, il y a comme. Vu qu'eux rentrent dans le village, il y a une espèce de villageois, là, les bonhommes NPC de l'univers qui sort, puis là, il va comme être en amour avec et avoir des dates et tout. Fait que là, on utilise ce levier-là pour que l'histoire progresse plus rapidement, si on veut.
Donc, sans surprise, Minecraft va être le succès en fin de semaine, c'est certain.
Tout à fait, je pense que les préventes sont très bonnes. Ouais. C'est pas pour rien, je pense qu'on a attaqué la même fenêtre que Mario Bros. L'avait fait il y a quelques années. On est dans le genre comme on dit un peu, tu sais, Jumanji, Lego Movie, Mario Bros. Il y en a que c'est des franchises de jeux vidéo, d'autres non, mais tu sais, aventure assez simple, mais qui va comme faire rire puis plaire un peu à tous. Là. On réinvente pas le cinéma, on est peu réduit dans le blockbuster ici, mais ça va attirer les fans du jeu qui veulent un bon divertissement léger en ces temps plus gris là, du mois d'avril. Fait que je pense pas qu'on va gagner des statuettes avec ce film-là au bout de l'année, mais on va
empiler de l'argent.
Oui, c'est ça. Ben, j'allais dire plus philosophiquement attirer du monde dans les salles, mais au final, oui, cacher in là-dessus. C'est clair qu'on le film comme tel ouvre pas sur une suite, mais comme tu disais, avec l'univers Minecraft, si ça fonctionne, on va faire un autre film, soit avec d'autres personnages, soit en ramenant ces personnages-là, soit... C'est ouvert à tout ça.
Ah oh, oui.
Mais on n'a pas fait l'erreur du Back to the Future ou de quelque chose de vite, faut revenir dans l'Underworld. C'est Otherworld ou Underworld, je me souviens plus. Je pense que c'est Otherworld, comme l'autre monde.
Otherworld ou Overworld?
Overworld, je pense. Overworld. Le monde au-dessus.
Okay. Mais ou comme le dernier Spider-Man en animation. De nous laisser sur.
Oui, c'est ça. Non, ils n'ont pas fait ça. Gros cliffhanger.
Sinon, autre sortie quand même qui a un beau potentiel, si vous aimez le cinéma plus d'auteur, mais très accessible quand même, c'est The Friend de Scott McGehee et David Siegel.
Voilà, avec surtout Naomi Watts, mais aussi un petit rôle pour Bill Murray, en fait, c'est plus parce que on suit Naomi Watts, qui est une écrivaine et enseignante new-yorkaise, enseignante donc en littérature, alors tout ce milieu huppé-là, qui va être contrainte d'accueillir et d'adopter le grand Danois, donc ce chien format géant, de son vieil ami et mentor, joué par Bill Murray, qui vient de s'enlever la vie. Fait que c'est pour ça qu'on voit pas beaucoup Bill Murray, parce que son personnage se suicide hors écran. Fait qu'on le revoit un peu en flashback par certains moments et tout, mais il n'est pas autant présent dans le film que sur le poster. On fait plus parler de lui, puis être avec sa veuve, puis ses survivants, puis sa fille et tout. Puis là, le personnage de Watts est pogné, était supposé compléter un livre sur des correspondances que Walter, le personnage
Bill Murray.
De Murray, oui, c'est ça. Faisait, mais là, ça stagnait, ça avançait pas. Puis là, le fait d'amener le chien qu'elle peut pas garder dans son appartement, fait qu'elle le garde un peu en cachette, ben ça vient toute la confronter dans où est-ce qu'elle est en ce moment. Je dirais que c'est un film qui est plus un drame qu'une comédie dramatique. Contrairement à Sylvie Vartan, mettons, il y a, t'sais, l'humour est très léger ici. C'est pas non plus un mélodrame, on n'est pas en train de pleurer tout le long, mais c'est plus une trame dramatique que comique.
Ouais.
C'est un film qui prend le temps d'exister, de présenter. Il y a aussi une bonne dichotomie, je trouve, un clash entre les appartements, justement, de toute cette classe-là avec des qui écoutent juste des vinyles, des murs remplis de livres, des bibliothèques jusqu'au plafond, là, des plafonds de 15 pieds. Puis l'extérieur qui est plus froid. Ça se passe comme en décembre un peu, une bonne partie pré-Noël, là, mais... C'est un genre de film de Noël, mais que tu sens pas Noël, là, vraiment. Puis, qui est plus froid, cet extérieur-là de la ville, très béton, mais il faut qu'elle sorte promener le chien et autres, parce qu'on elle ne va pas dans Central Park si souvent que ça. Là. On est plus dans les coins de rue asphaltés.
Moi, je vois ça comme une lettre d'amour à New York. Je trouve que c'est bien représenté. Le film peut évoquer un peu Woody Allen là, dans ses bonnes années. Woody Allen léger, quand même. Le film se prend très, très bien. On n'est pas du tout dans la lourdeur, au contraire. C'est un film très lumineux, d'espoir. Naomi Watts, elle est vraiment très, très bonne.
Ouais.
Tout en retenue aussi. Puis c'est ce que j'ai aimé. C'est vraiment un film à dialogue. Il n'y a pas d'artifice dans la réalisation. On plante la caméra, on laisse les comédiens jouer. Et je pense que la vedette, c'est vraiment le beau chien, le grand Danois, qui est vraiment super.
Parce que lui aussi est comme en deuil. Il comprend pas qu'il adorait son maître, puis il est juste plus là. Fait que tranquillement, c'est ça, le deuil est au thème central du film. Le deuil, puis l'espèce de remise en question aussi, parce que c'est bien beau d'accepter, ça prend du temps, mais de cheminer puis d'accepter que quelqu'un meurt. Encore plus quand c'est un suicide, c'est encore plus étrange. Puis, elle, à un moment donné, c'est sa perspective, on comprend que c'est un professeur qui a souvent eu des relations avec ses étudiantes par après, mettons, là, avec ses collègues, puis... fait que, une drôle de forme de mentorat. Fait que peut-être qu'elle aussi, elle a déjà eu quelque chose qui s'approchait d'une idylle, mais là, est-ce qu'elle est en paix avec le fait qu'il y a eu trois autres femmes depuis et tout? Elle travaille avec sa fille pour l'aider sur le roman. Fait que ça met dans une relation très proche de lui. Fait que tu te sens encore plus imposteur de ne pas avoir vu ça venir, que la personne décède. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement un film qui parle de suicide, là, mais... ça fait partie à un moment donné de ce qui est évoqué à l'occasion. Quand même drôle de phrase. Ça fait très humour Bill Murray, puis ça colle avec son personnage quand il dit, tu sais, dans le fond, plus il y a de gens suicidaires, moins il y a de gens suicidaires. Je suis comme, c'est de l'humour noir en tabarouette, ça, mais oui.
Donc, le fameux chien en question, de son vrai nom, Bing.
Oui, et comment il l'appelle dans le film?
Apollo.
Apollo, oui. Ouais.
Donc, Grand Danois, quelques fun
facts. Très beau, un peu dalmatien là, dans ses couleurs blanc taché
et
noir.
D'ailleurs, donc, The Flynn est une adaptation d'un roman de Sigrid Nunez. Elle doit être contente puisque deux de ses romans viennent d'être portés à l'écran.
C'était
là.
Quoi le précédent? Non,
c'était le film de Pedro Almodovar.
OK, The Room Next Door.
The Room Next Door,
c'est un peu drôle parce que Room Next Door, c'est quelqu'un qui demande d'accompagner pendant son suicide. Puis cela parle de les survivants autour d'un suicidé. Là.
Fait qu'elle a peut-être des thématiques fétiches. Comme ça, je ne connais pas ses autres romans si ça tourne autour du même sujet. Mais bref, dans le roman, le chien avait cette description-là aussi. Et ça a été compliqué parce que de trouver un grand Danois avec les taches noires, blancs et taches noires, déjà là, tu te limites un peu. Puis c'est un chien qui est difficile à trouver. Il n'y en a pas énormément. Donc, dans le fond, le spécialiste des animaux connaissait un éleveur de grand Danois dans l'Iowa. Finalement, là, contacter cette personne-là, une femme et tout ça, fait que sur place, a vu Bing qui correspondait carrément à la description du chien dans le roman. Donc, il était âgé 5 ans au moment du casting, mais le film a pris du temps à être tourné, à financer. Il y a eu la pandémie. Donc, au moment du tournage, il y avait 7 ans, il y a 2 ans que ça s'est écoulé. Fait qu'il y avait quand même un peu un stress parce qu'on l'apprend dans le film que les grands Danois, ils n'ont pas une grande espérance de vie.
Oui, le fait
qu'ils
sont plus gros et tout, vivent moins longtemps que la plupart des chiens.
Fait que c'est du 7-8 ans à peu près, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Fait quand même, mais juste pour ça, ça vaut la peine parce que je trouve que les réalisateurs là, le mettent bien en évidence. Je trouve que la façon qu'ils tournent les cadrages avec le chien, c'est super beau, c'est super intéressant. Fait que si vous voulez quelque chose de qualité.
Contre-programmation un
peu. Oui, effectivement. Vous pouvez laisser vos ados ou pré-ados dans Minecraft, puis vous allez voir The Friend.
Exactement. The Friend ou L'Ami. qui est disponible soit juste en anglais ou anglais avec sous-titres français, mais il n'y a pas de version française. Et la question qu'on se demande un peu, la référence au titre, c'est l'ami est qui? Est-ce que c'est le chien ou est-ce que c'est elle, là, finalement?
Je pense que c'est les deux,
c'est
finalement.
Les deux, oui. Ben parce qu'il laisse le chien parce que c'est sa meilleure amie. Mais qui va avoir besoin de qui au final? Il y a tout ça. Fait que ça aurait pu, on dirait même quand on le décrit là, t'aurais pu avoir l'équivalent là, très justement comédie dramatique, quétaine. Avec, tu sais, il n'y a pas de scène où fait prendre un bain, puis là, il y a de la mousse partout, puis là, tout est foufou. Là,
oui, ça aurait peut-être un Turner and Hooch ou un canine.
Ouais, là, c'est t'sais. Ça, exact. Un body cop, un writer, mais d'écrivain. Là, le chien l'inspire, puis elle écrit. Finalement, c'est elle qui écrit Scooby-Doo, puis Marmaduke. Là. Non, non. C'est pas ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit que c'est tout en nuance et en subtilité et en qualité.
Et voilà. En douceur. Je trouve que c'est un film qui est... Ouais.
Doux comme un grand chien couché qui prend toute la place dans ton lit.
Oui, tout à fait.
La semaine prochaine, le 11 avril, on continue à avoir énormément de films. Là, le 11, le 18 puis le 25, là,
c'est chargé.
Ça va être du costaud. Hein. Mais il y a un film de Christopher Landon, lui qui était derrière les Happy Dead Day, qui pique notre curiosité. Drop ou Trollé au Québec, qui a l'air d'un genre de thriller. Écoute, je sais pas si c'est bon signe, là, mais je dirais un petit peu comme le dernier chez Shyamalan avec Trap, là. Mais tu sais, ce côté-là qui est pas... C'est pas un film d'horreur, je pense pas qu'il faut le voir de même, mais la madame, elle va passer une date dans un restaurant, puis là, elle se remet à recevoir des drops, là, des dépôts forcés sur son cellulaire, qui menacent sa famille, mais là, elle comprend que si elle reçoit ça, c'est que la proximité fait que c'est quelqu'un qui est dans le restaurant, fait que là, qui est-ce qui essaie de la blackmailer, puis je pense qu'il faut qu'elle empoisonne sa date. Ben, c'est de pas vouloir faire ça, puis comprendre c'est qui, puis qu'est-ce qui se passe là-dedans. Fait qu'un genre de très thriller, là, finalement, d'action peut-être là-dedans. Fait que des fois, c'est le meilleur ou le pire. Fait qu'on va le découvrir la semaine prochaine.
Ben moi, je dois avouer qu'Happy Dead Day, ça va être une des belles surprises dans ce créneau-là.
C'est ça, qui est plus
là.
Comédie d'horreur, là, mais oui.
Mais je trouvais que c'était très original.
Exactement. On va voir aussi Warfare, qu'on devrait prendre l'affiche. Fameux film de guerre. C'est drôle, j'ai vu du haut génie puis des grosses déceptions. Fait que je sais pas pourquoi il est autant polarisant. Fait que on découvre ça et on vous en reparle la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous contacter par courriel balado au singulier à commercialmonciné.ca et suivez Magazine Monciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Monciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous devez sauver un monde, demandez donc l'aide de Rock au lieu de Aquaman, ça risque d'être plus facile.
Tu te trouves plus efficace?
Un peu plus.
Plus fort, il est plus fort, ça aussi.